suite, ce qui est capable de parler de lui-même. Mais Asmik est le directeur du centre ici. Asmik, c'est notre boss en quelque sorte, ou celui qui nous accueille, on va dire. Bienvenue Asmik. Un collègue, donc, il est le directeur de la corde. Il travaille avec David Tracy dans le staff de Jeunesse sans limite Québec. Il est aussi pasteur d'une église dont le nom exact, c'est l'église... Le Centre évangélique des Nations. Le Centre évangélique des Nations, qui est à peu près 2 kilomètres par là sur le boulevard Gouin, une église dynamique qui a aussi des œuvres, elle aussi des œuvres de bienfaisance ici à Montréal et en Haïti. Asmik fait partie de ceux qui ont eu la vision du centre ici. Et puis, quand ils ont acheté le restaurant, en fait, un petit peu avant, l'Oasis a dit, « Hey, ça serait le fun d'avoir un partenariat avec quelqu'un qui a une vision pour cette région de l'Ouest de l'île. » Et cette personne, en tout cas, une de ces personnes clés, c'était Asmik. Donc, Asmik, tu vas compléter, tu as aussi la parole à nous annoncer, mais je pense que tu vas nous parler un peu de la vision, de la corde, ta propre vision et tout ça. As-tu un PowerPoint à matin? Je vais te donner ça alors. Aimerais-tu un micro? Tiens. T'aimes mieux? Oui? Ça, c'est garde. Tu le mets comme ça.
All right. 1, 2, 1, 2.
All right. Une fois qu'il est bien, tu y touches.
Parfait, OK. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Marc, de m'avoir invité. Merci à l'Église de m'avoir accueilli ici. Je me sens comme chez moi, dans ma communauté avec les gens. Alors, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous ma passion. J'ai deux choses que je dis toujours que je ne changerai jamais. C'est ma femme et mon Dieu. Et aujourd'hui, ma femme n'est pas avec moi. Mais un jour, quand même, j'ai parlé, j'ai dit, il faut qu'on visite l'Oasis. Alors, j'espère que la prochaine fois, je pourrai amener ma femme et toute ma famille. Si j'amène toute ma famille, il nous faudrait au moins 3 rangées. 3 ou 4 rangées. Alors, je vous dis ça d'avance. Alors, mais vraiment, merci de m'avoir accueilli ici à l'Oasis ce matin. Comme qu'il disait, Marc, je suis directeur du centre jeunesse La Corde, et pour ceux qui sont déjà venus ici à La Corde, le boss ici, c'est les enfants, et c'est eux autres les patrons, mais on essaie de les encadrer, les diriger. Alors, c'est vraiment une vision extraordinaire que le Seigneur a mis ici à Cloverdale. Je sais, j'ai rencontré Lydia ce matin. Lydia, on a grandi ensemble. Elle était toute petite parce qu'elle est plus jeune que moi. Mais vraiment, qui se souvient comment que c'était Cloverdale, là, 15 ans. C'était pas ça. Et comme qu'on aurait pu dire, est-ce qu'il y a quelque chose, hein, vous souvenez, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Cloverdale? Comme qu'on avait dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut provenir de Nazareth? Rien! Y a rien! Mais Dieu a transformé tout cela. Hein? Et alors, c'est vraiment d'une manière extraordinaire de voir Vision Mondiale et le corps de Christ, parce que la corde, ce n'est pas une personne, la corde, ce n'est pas Asmik, la corde, c'est vraiment les mains, les pieds du corps de Christ qui œuvre. Et ça fait 10 ans, et je peux vous dire, il y a des jeunes que vous voyez ici dans ce petit poster qui aujourd'hui sont à l'université. Et hier, j'expliquais, je montrais dans mon bureau, j'ai un jeune avec son petit sandwich, et puis il faisait un thumbs up, et puis aujourd'hui, ce jeune est à l'Université Laval. À l'Université Laval, un des meilleurs athlètes au pays. Et hier, justement, il était à la Coupe Vanier. Alors, c'est juste pour vous dire comme ça que des choses extraordinaires qui se font à travers ce ministère. Alors, la Corde, c'est un centre. Les enfants viennent ici prendre un petit déjeuner. Nous avons réalisé, voilà quelques années, que pour briser le cycle de la pauvreté, c'est à travers l'éducation. Et on sait que lorsqu'on parle d'éducation, on ne parle pas juste 1 plus 1, 2 plus 2, mais on parle de tout ce qui a trait à l'éducation, le développement d'un enfant. Alors, nous avons développé ce programme en partenariat avec Vision Mondiale, un programme de nutrition, parce qu'on a vu que l'éducation est reliée aussi avec le ventre. Parce que, écoute, si j'ai faim, 2 plus 2, j'ai aucune idée, j'ai faim. OK? Arrête de m'agacer avec combien qu'il y a de provinces. Non, j'ai faim. Alors, on a vu comme ça que l'éducation est reliée avec la nutrition. Alors, nous avons parti le programme La Corde. Chaque matin, les petits-enfants viennent, ils prennent un petit déjeuner. Chaque matin, à partir de 6h45 ici, hein, l'équipe L'Oasis sont là au rendez-vous le mercredi. Le petit déjeuner, le matin. Ensuite, les enfants, vous savez qu'ils vont à l'école dans le secteur ici qui n'est pas trop loin, à 2-3 minutes. Alors, les enfants, ils reviennent à l'heure du midi. On leur donne un repas chaud. Un repas chaud. Et ensuite, pendant l'heure du midi, ils ont des activités. On a des cours de musique aussi parce que leur épanouissement, ce n'est pas juste un épanouissement au niveau physique, mais aussi leur développement à travers l'art. Et vous savez que la musique, c'est la langue internationale. Et on sait ici, je dis toujours aux gens, nos petits-enfants, ils apprennent à danser avant d'apprendre à marcher. Alors, c'est la culture ici. On aime danser. Depuis le ventre de notre mère, on danse. Alors, c'est à travers la musique, il se développe. À travers la musique aussi, à l'heure du midi, on a des activités aussi spirituelles. Leur parler de leur père, parler de ce Dieu extraordinaire qui a un plan pour eux. Alors, ils font cela. Et ensuite, ils vont à l'école à l'heure du midi. Ils reviennent à 3 heures. On leur donne une collation. Et ensuite, encore une fois, des activités, des jeux et on a le soutien qu'on appelle le soutien scolaire, l'aide aux devoirs, encore une fois, pour leur développement académique, pour leur succès académique. Et comme je vous ai dit, ces enfants qui aujourd'hui, on les voit, on voit la progression, qui sont à l'université, qui sont au cégep, et qui sont aujourd'hui en voie de devenir les leaders de cette société. Nous ne voulons pas juste en faire des citoyens modèles, mais nous voulons en faire aussi des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Alors, autour de tout notre programme du mois de septembre jusqu'au mois de juin, c'est à travers la parole de Dieu qu'on essaie de les connecter. Moi, un jour, je vais quitter, comme tout le monde, ce monde. Et moi, je suis juste un serviteur, mais c'est pour leur dire, ce n'est pas Asmik, mais c'est leur père. C'est leur père. Ce n'est pas, oh, Asmik arrive, on va rester tranquille, mais c'est leur Dieu. Alors, c'est vraiment les connecter à ce Dieu. Alors, ce programme, comme je vous dis, c'est à travers le corps de Christ. Je dis toujours aux gens, on me demande, Asmik, comment vous faites ici? Je dis, écoute, nous, on a des gens haut placés. Les gens haut placés, quand je dis haut placés, nous avons Dieu, nous dépendons de Dieu. Chaque chose que vous voyez ici, c'est des dons. Les chaises, c'est des dons. Et c'est le corps de Christ. Chaque sandwich, chaque biscuit, c'est le corps de Christ. Et d'ailleurs, à l'heure du midi, si vous demandez à un enfant, c'est peut-être que votre enfant vient ici à la corde, vous connaissez un enfant, demandez-leur c'est quoi l'ingrédient le plus important dans le pâté chinois ou dans la lasagne qu'ils servent ici. Ils vont vous dire, c'est l'amour. Dites-leur, demandez-leur à un enfant ici, c'est quoi l'ingrédient le plus important? L'amour. Alors, c'est vraiment l'amour de chaque personne qui cuisine un repas, parce que vous pouvez aussi cuisiner un repas, vous cuisinez un repas, vous le donnez ici et on le fait chauffer. C'est l'amour, un biscuit, des muffins. On sait comme ça que Jean-Paul est fidèle avec ses croquettes deux fois par semaine et puis il nous amène ses croquettes qui sentent l'amour, l'amour. Alors, c'est l'ingrédient le plus important et je peux vous dire que ça fait impact dans la vie de ces enfants, de savoir qu'il y a des gens qui les aiment, il y a des gens qui veulent pourvoir à leurs besoins. Alors, on vous demande de toujours continuer à prier pour l'œuvre, pour le Centre Jeunesse La Corde, alors qu'on sait comme ça que Dieu a un plan extraordinaire pour cette communauté. Amen.
Amen.
Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, quand j'ai grandi, je vous explique un peu mon témoignage, j'avais un ami qui s'appelait Jojo. Et Jojo et moi, on vivait dans un quartier très défavorisé, mère monoparentale. Et un jour, Jojo m'a dit, écoute, Asmik, moi, j'ai un plan. Je vais devenir riche. J'ai un plan. Et voici ce qu'il a fait. Il a dit, écoute, Jojo avait son chien qui s'appelait Butch. C'est son meilleur ami. Et puis Jojo a dit, Asmik, j'ai un plan, suis-moi. Et Jojo est plus vieux que moi. Et j'ai suivi Jojo. Il a dit, regarde-moi bien, allez. Et Jojo avait dressé Butch. Butch était très, très, très obéissant. Butch était très dressé. Il disait à Butch, assis-toi, Butch s'assit, lève-toi, il s'assit, il se lève, et ainsi de suite. Très, très, très obéissant. Alors Jojo, voici c'était quoi son plan. Jojo a pris Butch et moi, et on est allé frapper dans les portes, et voici c'était quoi son plan. Il a dit, écoute, monsieur, madame, lorsqu'il frappait à la porte, monsieur, madame, je dois déménager, et voici le nouvel appartement que je vais aller, je n'ai pas le droit d'avoir un chien, alors je me demande, est-ce que vous êtes prêt à acheter mon chien, et je vous le vends $50. Et on finissait toujours par trouver quelqu'un qui disait, ah ouais, il est très dressé ce chien, et ainsi de suite, et puis il est vacciné, oui, $50, on partait. Dans la soirée, moi et Jojo, on revenait où ce qu'on avait vendu le chien. Et Jojo, alors qu'on avait mis le chien dans la cour, Jojo revenait et il sifflait « Butch » et Butch sautait la clôture et on repartait avec Butch. Le lendemain, on va revendre Butch. La même histoire, écoute, monsieur, c'est parce qu'on doit déménager dans un nouvel appartement, on ne peut pas amener le chien. Et puis, voilà, est-ce que vous êtes prêts à nous l'acheter, le chien, $50? Pas de problème, $50, boum. Et puis là, la même soirée, on revenait, et Butch sautait par-dessus la clôture, on repartait avec Butch.
Il était dispendieux.
Et, genre oui, $50, on est jeune, là, et on a 12 ans, $50, Jojo, on est des génies. $50, et voilà, c'est ce qu'on faisait. Et encore une fois, on arrivait, puis M. Butch, et puis je vous dis là, Butch, on faisait des clés d'œil à Butch. Butch était complice. Butch, il savait qu'on venait le rechercher, on venait aller le chercher la soirée. Butch, vas-y Butch. Et la même soirée, encore une fois, et Butch sautait par clôture. Et on a vendu ce chien au moins 20 fois. Un jour, encore une fois, on s'en va vendre Butch, et puis Butch, tu connais la gamique, c'est ça, puis la même histoire, et puis voilà, Butch, tu peux y aller, puis la même soirée, on va venir te revoir. Et cette soirée-là, on est revenu, et puis on a sifflé, Butch, Butch ne saute pas, qu'est-ce qui se passe? On a sifflé, et puis Butch, et Butch est dans la clôture, on a regardé pour voir s'il était dans la cour, et Butch était dans la cour, puis on a tout fait tous les signes possibles, on a appelé, on l'a dit de venir, Butch ne veut pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Cette journée-là, on a réalisé que Butch venait de tomber en amour avec son maître, le nouveau maître qu'il avait. Butch était fatigué de se faire vendre, de se faire vendre. Butch a décidé qu'aujourd'hui, j'arrête. Wow! Butch a découvert qu'il a trouvé un nouveau maître qui avait un plan, un projet, un avenir. Il a trouvé un nouveau maître. Et moi aussi, comme Butch, je dis, wow! Je cherche un plan pour ma vie. Parce que la vie que je menais ne faisait pas de sens. Moi, je suis né en Haïti et je suis le deuxième d'une famille de 4 enfants. Et venir ici au Canada, c'était un rêve. Mon père était déjà établi ici. Et je me souviens, lorsque ma mère nous a réveillés un matin, elle a dit, écoute, nous avons reçu nos papiers et nous allons au Canada, la terre promise, qu'on disait. Canaan, hein? Canada, pas Canada. Mais c'était vraiment un rêve venir ici au Canada. Et je me souviens, nous sommes arrivés ici, je me souviens très bien, c'était le 2 novembre 1982. Je suis en Haïti, je vous ai dit, vous connaissez la météo en Haïti et la météo au Canada. La terre promise, quand je suis arrivé ici à Mirabel, j'ai capoté la météo. Mais on m'a dit, écoute, Asmik, t'as rien vu, attends février. Mais vraiment, c'était un rêve venir ici au Canada, un nouvel avenir, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle opportunité pour ma famille, un rêve. Mais très rapidement, le rêve a commencé à se transformer en cauchemar. Mes parents, après une dispute, après une chicane, un jour, j'ai vu mon père prendre ses valises et il nous a carrément abandonnés. Et pour mettre un peu dans le contexte, ma mère, très jeune à l'époque, jeune femme de 28 ans, 29 ans, qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, dans un pays qu'elle ne connaît pas avec 4 enfants. Et je vais toujours me souvenir de cette phrase très dure que mon père avait dit à ma mère avant de claquer la porte. Voici ce qu'il avait dit à ma mère. Il avait dit, comment tu vas faire dans ce pays avec 4 enfants? Tu vas finir par vendre ton corps pour vivre ou tu vas finir par te suicider. Une phrase très dure. Je vais toujours me souvenir. Mais ma mère, je vais me souvenir aussi de cette phrase qu'elle avait répondue à mon père. Voici ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Oui, oui. Et oui. Ma mère, cette petite bout de femme, vous connaissez ma mère. Ma mère, c'est une lionne. Ah oui, ma mère, c'est une femme forte. Et parfois, les gens me disent, écoute, Asmik, toi, tu as un caractère fort. Ma mère m'a élevé. J'ai été élevé par une lionne. Et moi, ma mère, cette madame, cette lionne, nous, on est comme des petits lionceaux et on suit ma mère. Et moi, je m'accrope à sa jupe et mon frère à sa cuisse. Et puis un autre frère, et puis elle tient la main d'un autre et voici la lionne avance. Elle avance, pourquoi? Parce qu'elle croit en son Dieu qui va la sortir de son problème. Et moi, je regarde ma mère. Et je la regarde, elle me dit toujours, inquiète-toi pas, Dieu va prendre soin de nous. Et moi, je me souviens, on allait à l'église et j'entendais souvent ce verset, Jérémie 29. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Je l'ai entendu, ce plan, et ma mère nous le récitait, inquiète-toi pas, Dieu a un plan pour nous. Et je l'ai lu, mais voyez-vous, en grandissant, ce verset m'a écœuré. Dieu a un plan pour nous, mamie. Regarde notre situation, on habite dans un petit 2,5 plein de coquerelles, on n'a rien à manger. Mamie, où est ton Dieu? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu pour nous? Et moi, j'ai vu ma mère faire des lignes dans des sous-sols d'église pour aller chercher de la nourriture, pour aller chercher des vêtements. J'ai vu ma mère s'enfermer dans sa chambre pour pleurer. J'ai vu ma mère se mettre à genoux parce que le désespoir. J'ai vu le désespoir dans les yeux de ma mère. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Mais voyez-vous, moi, à cet petit âge où j'ai regardé, j'ai dit, mais il y a un problème dans ce verset. Il y a vraiment un problème dans ce verset. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Mais quand? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Est-ce que c'est ce mois? Est-ce que c'est l'année prochaine? Je sais que tu as dit que tu vas me guérir, mais quand? Tu as un mari pour moi, mais quand? Tu as un travail, mais où? Quand? Tu as un plan pour moi. Et c'est ça, des fois. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu es un Dieu qui agit. Tu as fendu la mer rouge, Seigneur. Tu as pourvu, tu as guéri la femme avec la perte de sang. Je sais que tu existes, Seigneur, mais quand tu vas intervenir dans mon dossier? Quand? Je crois en toi, mais quand? Et j'avais un problème avec ce verset. Mamie, c'est quand Dieu? Où est ton Dieu? Mamie, où est ton Dieu? Et mon cœur s'est endurci et je me souviens, à l'âge de 10-11 ans, j'ai dit, tu sais quoi, mamie? Moi, j'ai mon propre plan. Tu sais quoi, Dieu? Toi, tu t'occupes du ciel, moi, je m'occupe de ma vie. Et j'ai commencé à vivre ma vie. Moi, j'ai un grand frère. Mon grand frère, c'est mon modèle. Mon grand frère, c'est mon idole. Mon grand frère, c'est comme mon père. Mon grand frère, il m'apprend tout. Lorsque ses vêtements sont trop petits pour lui, il les donne à moi. Et lorsque c'est trop petit pour moi, je le donne au troisième. Le troisième, on donne au quatrième. C'est comme ça fonctionne chez moi. Mon grand frère, c'est lui qui m'apprend tout. C'est mon père. Un jour, mon grand frère revient de la maison. Il me dit, Asmik, moi, je me suis trouvé une nouvelle famille. Et mon grand frère a commencé à côtoyer les gangs. Et j'ai commencé à suivre mon grand frère. J'ai commencé à tomber dans la délinquance. J'ai commencé à prendre certaines autres valeurs. Et j'ai commencé à rentrer dans le monde des gangs. Mon cœur s'endurcit. Et moi, tout ce que je recherche, c'est cette petite tape sur l'épaule. Sentiment d'appartenance. J'essaie de construire mon propre bonheur. Mon cœur s'endurcit. 12 ans, je me retrouve en institution. À l'âge de 16 ans, encore une fois, en institution. L'âge de 18 ans, Il n'y a plus rien à faire avec Asmik. Asmik est rendu un individu, comme qu'on dit, irrécupérable. Est-ce que ça fonctionne, ça? Oui, hein? Je dois le viser ici. Irrécupérable. À l'âge de 18 ans, je me souviens, je me suis retrouvé au pénitencier. Et je vais toujours me souvenir les 15 premières minutes que je suis rentré au pénitencier. J'avais 18 ans à l'époque. Je me souviens, j'ai déposé mes sacs et je me suis rendu sur le terrain de basket. Et il y avait une scène alors qu'il y avait deux détenus qui commençaient à se chamailler pour une question de qui passe le ballon. Et il faut que tu me passes le ballon. C'était une petite chamaille qui n'avait rien de très grave. Et moi, j'ai vu 15 premières minutes que je venais d'arriver à ce pénitencier dans la jungle, dans mon nouveau monde. Et je me suis vu ce détenu sortir un couteau et il a poignardé l'autre détenu une vingtaine de fois. Et c'est à ce moment-là que je venais de réaliser dans le monde que je venais de me retrouver. J'avais 18 ans à l'époque. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que ça, c'est la jungle. Et que dans cette jungle, s'il y a certaines personnes, si quelqu'un me casse une dent ou qui enlève mon cœur ou qui me tue, il y a certains détenus ici que s'ils me tuent, ça ne change rien dans leur sentence parce qu'ils font une vie. On appelle ça des lifers. Ah oui, un monde violent, un monde dur. Et c'est là que j'ai vécu pendant des années. Et mon cœur s'est endurci et après... Et moi, je suis devenu cet homme. Voyez-vous, moi, je ne suis pas né comme ça. Lorsque vous regardez dans les yeux de ce monstre que j'étais, voyez la frustration, voyez la colère, voyez la haine. Mais moi, je me souviens quand j'étais tout petit, moi, je voulais devenir pompier. Je souriais toujours et j'avais un rêve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Asmik soit devenu comme ça? Le malin. Le malin. À l'âge de 18 ans, 19 ans, ma vie était gâchée, il n'y avait plus d'espoir pour moi. Et je me disais toujours, tôt ou tard, il va falloir qu'on ouvre ma cage. On peut me mettre 5 ans, 10 ans en prison. Tôt ou tard, il va falloir qu'on ouvre ma cage. Et j'avais un seul objectif, c'est mettre le bordel. L'argent, le pouvoir, le respect, c'était juste ça. Mes ambitions, et je me fous de la vie, et je me fous de ma vie, ça m'importe peu. Et Asmik, tout le monde sait, Asmik, c'est un individu violent. Asmik, si tu as un problème avec Asmik, il va falloir que tu le tues, parce que lui, oublie ça. Asmik, s'il trouve ton chien dehors, s'il trouve ton chat, oublie ça. C'est comme ça, il y a son cœur, c'est... Et mon cœur... s'endurcit. J'ai passé la plupart de ma vie en prison. Et vous savez quoi? Même en prison, on me met en prison. Parce qu'Asmik, c'est un individu extrêmement violent. Asmik, oublie ça, Asmik contrôle la prison. Asmik, c'est lui qui fait ça. Fait qu'il n'y a rien à faire avec ce détenu. Il faut le mettre en prison. Et voici, c'était quoi mon régime? Mon régime, 23h30 sur 24. 23h30 sur 24, on me met dans une petite cellule et voilà, on enlève mes vêtements, on me met en sous-vêtements dans une petite cellule. 23h30 sur 24, j'ai 15 minutes pour une douche, 15 minutes pour un coup de téléphone et voilà, on ferme la porte, jette les clés. Asmik, 30 jours, 60 jours en isolement parce qu'il n'y a rien à faire. Et voilà, pendant que j'étais au trou, parce que moi, je sors du trou. Après 30 jours, il va falloir qu'on me sorte. Si ce n'est pas 30 jours, 40 jours. Si ce n'est pas 40 jours, ça va être 50 jours. Mais tôt ou tard, il va falloir qu'on ouvre la porte. À un moment donné, il va falloir qu'on me libère. Et on va me libérer. Et c'est reparti de plus belle. Et moi, tout ce que je sais faire, c'est détruire des vies. Je me souviens... Moi, je disais aux gens, écoute, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, un gars comme moi, je ne dormais pas souvent la nuit. Parce que j'ai cette conscience. Je sais très bien que la gâchette qu'on a appuyée, il y a quelqu'un qui va pleurer demain. Je le sais.
Je sais très bien que Asmik, l'ordre que tu viens de donner, c'est irréversible. Il va avoir des conséquences irréversibles, je le sais. Et fort souvent, je ne dors pas la nuit. Mais vous savez quoi? De temps en temps, une fois par 6 mois, une fois de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'église. Et je me souviens parce que, hein, je vais à l'église. Et je rentre et je me souviens de la petite église qui était sous le boulevard Gouin, par là-bas. Et qu'est-ce que je faisais? J'enlève ma veste par balle, je n'ai pas besoin de garde du corps aujourd'hui, je n'ai pas besoin de personne. Moi, je m'en vais à l'église parce que je n'arrive pas à dormir. J'ai cette voix qui m'appelle. Et je me souviens quand je rentrais à l'église, les gens ils me connaissaient dans la communauté, les gens me regardent comme si Satan venait de rentrer dans l'église. Et puis, Asmik, c'est Asmik, ça c'est Asmik. Ça, c'est Asmik. Mais moi, je m'en fous parce que moi, je m'assois en arrière parce que moi, je me dis, pendant 45 minutes, personne ne va venir me tirer ici. Personne ne va venir m'arrêter ici. Alors, pendant 45 minutes, j'ai la paix. Et je m'assois en arrière. Et j'écoute. J'écoute, je regarde. Et je regarde, j'observe et j'observe les gens. Et ils ont quelque chose que je n'ai pas. Parce que moi, j'ai une grosse Mercedes d'or, j'ai de l'argent dans mes poches, j'ai des grosses chaînes, j'ai tout ça, mais ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et je regarde dans leurs yeux, ils ont cette paix, ils ont cette joie. Et moi, je leur regarde, je dis, waouh, j'aimerais savoir ce qu'ils ont. Et je regarde la jeunesse, waouh, regarde leur innocence, regarde, waouh, j'aimerais savoir ce qu'ils ont. Et parfois, vous savez, nous, des fois, on envie le monde. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est le monde qui nous envie. Vous savez, cette paix que nous avons, il n'y a pas d'argent qui peut acheter ça. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a aucun million qui peut acheter ça. Moi, parfois, je m'en vais prier avec des millionnaires qui vivent des détresses que il n'y a pas un chèque qui peut régler. Et j'étais là, et j'ai dit, waouh, j'aimerais ça tellement être comme eux. Et pendant que je disais ça, il y avait cette petite voix qui me disait, Asmik, arrête, Asmik. Asmik, oublie ça, Asmik, arrête de niaiser. Asmik, toi, tu as traversé la ligne de non-retour, ça fait longtemps, Asmik. Asmik, Dieu change des gens, mais pas des gens comme toi, Asmik. Arrête! Asmik, t'as-tu vu? Asmik, tu sais ce que tu as fait hier, tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui, tu sais ce que tu vas faire demain, Asmik. Asmik, toi, Asmik, tu sais faire une seule chose et t'es bon là-dedans, Asmik, c'est détruire des vies. Fais pas l'hypocrite. Et moi, je ressortais avec ce mensonge et j'allais faire ce que je pensais savoir faire. J'allais détruire des vies. En 1999, je suis rentré en prison. Encore une fois, je me suis retrouvé en prison et je me suis retrouvé encore une fois au trou, hein, parce que c'est là que Asmik passe ses sentences. Et pendant que j'étais au trou, j'ai entendu dire qu'il y a un pasteur qui vient visiter des prisonniers. Et moi, j'étais au trou et j'ai dit mon régime, 23h30 sur 24, 15 minutes pour une douche, 15 minutes pour un coup de téléphone. Alors j'ai dit, le pasteur vient visiter les détenus. Mais moi, je vais voir le pasteur. Et je vais être honnête avec vous, je ne voulais rien savoir du pasteur. Mais pour une heure du trou, et puis en plus, j'ai rien dans mon calendrier. Ben, je veux voir le pasteur. Et je me souviens, les gardiens qui me disaient, Asmik, arrête de niaiser. Je dis, écoute, je veux voir le pasteur, c'est mon droit. Là, je veux voir le pasteur. Alors, on m'amène voir le pasteur. Et voilà. Et je me souviens, j'arrive à la visite, et le pasteur est là. Et j'ai dit, pasteur, assis-toi. Tu veux chanter, chante. Tu veux prier, prie. Pasteur, t'as une heure. That's it. Hey, là-dessus. Est-ce que je peux prier? Ah oui, prie. Prie, passe. Et il a prié. Et il a parlé aussi. Et après la visite, j'ai dit, pasteur, tu reviens demain, n'est-ce pas? Et le pasteur revient demain. Et moi, je vais vous dire, je ne veux rien savoir du pasteur. Moi, je veux juste sortir d'ici. That's it. Je veux juste me dégourdir les jambes. Une heure de plus. Parce que je suis au trou. Et le pasteur revient. Et moi, je veux rien savoir du pasteur. Je me souviens à cette époque, je disais, Asmik, là, vraiment, là, tu es en train de niaiser le pasteur. Là, tu vas vraiment aller en enfer. Là, c'est grave. Tu niaises le pasteur! Le pasteur revient, et il revient, et il revient. Mais à force de venir, le pasteur, il commence à me parler un langage qu'on ne parle pas dans la rue. Je parle français, je parle anglais, je parle créole. Mais le pasteur me parle un langage qu'on ne parle pas dans la rue. Le pasteur commence à me parler d'amour. Asmik, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux prier pour toi? Pasteur, tu veux prier pour moi? Pasteur, des gens comme toi devraient prier que des gens comme moi restent en prison. Des gens comme toi devraient prier que tu ne rencontres jamais un gars comme moi dans la rue. Ça devrait être ta prière, pasteur. Je dis non. Mais pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que pasteur, moi je te vois, tu voyages 2 heures pour venir me voir, tu passes 1 heure avec moi, et ensuite tu voyages une autre 2 heures. Ça c'est 5 heures, pasteur. Et donnes-tu un bonus? T'es-tu payé? Quand quelqu'un accepte le Seigneur? Parce que pourquoi tu tiens à moi? Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Parce que cet homme, il vient me voir, je dis, waouh! Vous savez, la Bible nous dit comme ça que Dieu nous connaît de A à Z, A à Z, A à Z, et il t'aime. Moi, c'est un des plus gros miracles que je connais. Dieu m'aime malgré tout. Et ma femme, ce n'est pas tout de moi, avec le T majuscule. Et je vais vous dire quelque chose, la personne qui est assise à côté de toi, si elle savait tout de toi, peut-être qu'elle changerait de place. Ah ouais? T'as déjà fait ça, toi? Tu penses à ça? T'as déjà dit ça? Mais la Bible nous dit que Dieu connaît tout, toi, et il t'aime. Pasteur, tu veux prier pour moi? Et le pasteur a prié pour moi, il priait pour moi. Je vais vous dire quelque chose, l'amour de Dieu à travers cet homme a commencé à faire une fissure dans ma carapace. Le 18 mai 2002, je me suis retrouvé devant le miroir et qu'est-ce que j'avais vu? C'est cet homme devant le miroir, face à face. Et voici, il y avait cette petite voix qui me dit, Asmik, encore, regarde ce que tu es devenu, Asmik. Asmik, toi, tu as passé 9 ans dans ta vie en prison, Asmik. Asmik, tes mains sont tachées de sang. Asmik, il n'y a pas d'espoir pour toi, Asmik. Asmik, on te met en prison, Asmik. Asmik, pourquoi tu ne fais pas à ta mère une faveur, ta pauvre maman qui pleure? Asmik, pourquoi tu ne fais pas à ton fils une faveur? Il ne sait même pas qui tu es vraiment. Asmik, pourquoi tu ne fais pas à la société une faveur? Asmik, pourquoi tu ne te fais pas une faveur? Pourquoi tu ne te tues pas? Il n'y a pas d'espoir pour toi, Asmik. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je contemplais le suicide. Mais voilà, le 18 mai 2002, dans ma cellule en prison, j'ai ouvert ce petit livre que le pasteur m'avait laissé et je l'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert le plus beau message que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Un verset. Ézéchiel 33, verset 11. Voici ce que ça dit. « Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Wow, j'ai dit wow, il faut que je relis ça, ça n'a pas de bon sens, c'est pas vrai. Parce que moi, voyez-vous, toute ma vie, on m'a dit quand Asmik va mourir, le quartier va avoir la paix. Mais ce que Dieu désire, qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu désire, c'est qu'il n'est pas que le méchant, le voleur, le meurtrier, le bandit meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Je l'ai relu. Wow! Ce que Dieu désire, ce n'est pas qu'un homme comme moi meure, mais que j'abandonne. Le 18 mai 2002, dans ma cellule en prison, j'ai sorti le petit drapeau blanc et j'ai dit, Seigneur, voici, tu dis dans ta parole que ce que tu ne veux, c'est que tous, quiconque, je fais partie de quiconque, tous Et j'ai dit, Seigneur, comme un enfant brisé qui amène, comme un enfant avec un jouet brisé qui vient vers son père, il lui dit, papa, est-ce que tu peux réparer mon jouet? Voilà ma vie, je l'ai brisée, je l'ai bousillée. Est-ce que tu es capable de me réparer? C'est ce que j'ai fait dans ma cellule en prison le 18 mai 2002. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai dit, c'est fini pour moi, la vie de bandit. Mon papa a un plan pour moi. Mon Dieu a un plan pour moi. Voyez-vous, je me souviens, quand j'allais à l'école, j'étais à Jean 23 et il y avait le directeur, M. Cousineau. M. Cousineau, voici ce qu'il disait. Pour que je rentre à l'école, il fallait que je signe un contrat chaque année. Et M. Cousineau, à chaque fois qu'il me voyait dire Asmik, t'es un bon garçon. Asmik, t'as du potentiel. Asmik, t'es un bon garçon. Hey, Monsieur Cousineau, où tu vois ça? Monsieur Cousineau, alors que tu es en train de me dire que je suis un leader et que j'ai un bon comportement et que je suis un bon garçon et qu'à l'intérieur de moi, tu vois quelque chose, alors que tu es en train de me dire ça, Monsieur Cousineau, moi, je suis en train de regarder pour voir comment je peux voler ton portefeuille. Et Monsieur Cousineau avait toujours sa main sur mon épaule et disait toujours ça. Asmik, tu es un bon garçon. Asmik, je vois du bon en toi. Et il a toujours comme ça. Et même lorsqu'on dit, écoute, Asmik vient de faire ci, Asmik vient de mettre le feu, Asmik vient de faire ci, M. Cousineau s'assoit et dit, Asmik, est-ce que c'est vrai? Mais M. Cousineau, ils te l'ont dit. C'est comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Mais oui, M. Cousineau, bien sûr que c'est vrai. Tu pourrais même demander à un aveugle s'il m'a vu, il va te dire oui. Ben oui, c'est Asmik. Mais il dit non, Asmik, même lorsque je vois ce que je vois, c'est pas ça. Même lorsque je vois ce que je vois, c'est pas ça. Vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai amené un arbre avec moi. Oui, Asmik est fou. Ça, c'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. Peut-être que vous ne voyez pas que c'est un arbre. Ça n'a pas l'air d'un arbre. Pour certains, c'est juste un déchet. C'est juste quelque chose que brûlé. C'est du fatras, comme qu'on appellerait ça. C'est un déchet. C'est pas un arbre, ça. Mais oui, c'est un arbre. Ah oui, parce que voyez-vous, si je le mets à la bonne place et que je mets les bons ingrédients, je mets de l'eau et que je l'entretiens, c'est un arbre. Et la parole de Dieu nous dit comme ça que ce Dieu extraordinaire, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et je me souviens, alors je réalise que cet homme, c'était une des personnes qui parlait dans ma vie, qui disait, Asmik, tu es un leader. Asmik, tu es un bon leader. Asmik, il y a du bon à l'intérieur de toi, Asmik. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans le royaume à la corde. C'est ce qu'on dit à ses enfants. Toi, tu es un leader. Toi, tu vas devenir un homme. Oh, yes. Toi, tu vas devenir une grande femme. Oh, toi, tu es... Oh, toi, tu peux être... Oh, oui, toi, tu es le prochain maire de la ville, toi. Oh, oui. Oh, oui, toi, tu es... Oh, oui, toi, tu es le prochain pasteur de l'église. Oh, oui, vous allez voir, rentrer dans mon bureau, il y a une photo d'un bébé, il est assis à ma chaise. Parce que je lui ai déjà dit, toi, tu vas devenir le directeur d'ici. À la corde. Moi, un jour, je vais partir. Moi, toi, tu vas devenir le leader. Tu vas être le Josué dans la communauté. Tu vas amener le peuple à la terre promise. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et ça qu'il avait dit, il a dit, toi, Asmik, tu vas devenir un bon père de famille. Tu vas être marié. Tu vas avoir une femme extraordinaire, Asmik. C'est ça qu'il avait dit. C'est ma femme, c'est mon épouse. C'est mon garçon. C'est ça qu'il avait dit. Tu vas devenir un bon père, Asmik. C'est mes filles. C'est mon petit Joshua. Ça, c'est la lionne. Oh oui, la lionne. Et si vous avez des problèmes avec moi, vous savez quoi? Ma femme, la plus grosse menace que ma femme peut me dire, c'est « j'appelle ta mère ». J'appelle ta mère. Appelle pas ma mère. Appelle pas ma mère. Appelle la police, mais appelle pas ma mère. Les lions. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et les enfants qui sont ici, les enfants de la communauté, la Bible nous dit que nous avons une responsabilité, comme ce pasteur qui est venu, qui a peut-être donné dans son temps de famille, peut-être son temps avec sa femme, son temps de travail, je ne sais pas, son temps... ça avait l'air qu'il mettait peut-être de l'eau dans un verre plein de trous. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? T'arroses le désert. T'arroses le désert. Non. Je fais le travail de Dieu. Je fais le travail de Dieu. Ce qu'il fera, c'est lui. Alors, je vais encourager l'Oasis à toujours continuer à prier pour moi, à être patient avec moi. À prier pour les enfants de la corde, à prier pour la communauté. Parce que c'est ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Cloverdale? Voilà 20 ans, tout le monde aurait dit rien. Mais aujourd'hui, Cloverdale est comme un jardin qui a fleuri dans le désert et ça, c'est le corps de Christ et je veux continuer, je veux vous encourager à prier pour ce ministère et le corps de Christ dans la communauté. Que le Seigneur vous bénisse.